Voilà, voilà, voilà. Bon, encore une fois, je remercie ma marraine et les organisateurs de m'inviter à prendre part à cette discussion. Je voulais peut-être rajouter un truc sur ce qu'on a dit ce matin au sujet du bail. Je ne sais pas si c'est encore là. Je ne sais pas. Bon, peut-être
oui,
que c'est,
il
c'est
est
pas.
Là, Charles,
là. Ah, ouais, d'accord, il s'est caché. Au fond, parce que il y a, ce matin, quand vous en parlez du bail, il y avait un autre élément qui me semblait important à souligner. C'est le fait que ce bail-là participe à la construction de, d'une sorte de discipline dans la France métropolitaine. C'est-à-dire qu'on imagine que ce bail-là, c'est une punition, c'est une sanction. Mais j'ai lu quelque part dans une des. Je crois que c'est un rapport où, de ces années-là, je crois 19e, hein, où un des officiels disait qu'on l'envoyait quelqu'un au bail pour qu'il meure du noir et des moustiques. Donc, cette phrase-là m'a quand même interpellé en vous écoutant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de menace, et que cette menace-là n'est pas. C'est la menace de l'histoire, de l'évocation de la mémoire historique, en disant que ces Noirs qui sont un peu des barbares, quasiment des sauvages, vous allez être à la merci de ces gens. C'est une punition supplémentaire. C'est un peu ça que je me demande c'était, si vous avez pensé à ces dimensions ou pas. Voilà. Ceci étant dit, voilà, pour ce qu'on vient d'écouter, le premier, je crois que la dame va être, Madame de Nevo, elle va être surprise parce qu'elle m'a dit qu'on allait être en désaccord ce midi. Mais fort de raison, moi j'étais en accord avec plein de choses que vous avez développées dans votre présentation. Alors, il y a, au fur et à mesure hein, de maintenant, hein, excusez-moi si ce n'est pas bien construit. Voilà, il y a la question de la cartographie et des traces. Alors, c'est une question logique, hein, d'abord, avant d'être une question d'histoire. En fait, si on s'imagine que c'est des traces, le risque, c'est de penser qu'il y a des essences, même si les essences sont superposées. Alors là, c'est un risque, en fait, que de couper, de saucissonner un peu ce qui était ce que Christine a parlé de la longue durée, ce qui est une sorte de cumulativité de sens, devient maintenant une sorte de cession comme ça. Donc, en termes logiques, il faut faire attention dans l'usage de la stratification. Quoi. Et ça, c'est un danger qui guette. Vous avez parlé beaucoup d'épistémologie. Il y a un danger qui guette souvent nos recherches, c'est qu'on est dans le niveau, quoi. On fait ça et puis après on monte. Mais les rapports entre les niveaux, les rapports entre les échelles, on a du mal à les construire. Et si on n'arrive pas à les construire, on est hors de la dynamique, en fait. C'est-à-dire qu'on a une dynamique qui est dans nos têtes, mais qui n'est pas dans la réalité. Vous voyez, on pense que c'est dynamique, mais le fait qu'on est, on est stratifié, on reste quand même très limité dans la compréhension de l'histoire, en gros. Voilà. Donc, parce que tout ça, ça change hein, de valeur, ça change d'influence, de couleur, tout ce que vous voulez. Donc, ça se chevauche. Voilà, c'est pas tout à fait stratifié, à mon avis. Alors, il y a quelque chose que vous avez abordé qui me semble aussi intéressant, qu'on n'aborde pas souvent, c'est le système de connaissances. Et ce système de connaissances-là se rapporte à plein de choses, y compris dans la position coloniale ou décoloniale. Je vais m'expliquer un peu rapidement. En fait, quand on regarde bien le cours de l'histoire, c'est question de la définition de l'autre et de rapport presque de domination. C'est un processus très ancien. Il faut remonter même chez les Grecs. On retrouve ça, comment on définit l'autre et comment. Et c'est ça qui est intéressant. Comment la définition de l'autre va contribuer à la construction d'un système de compréhension du monde. Compréhension totale du monde. Pas une compréhension segmentée seulement sur l'autre, mais ça va rentrer dans un système général un système, hein. Enfin, voilà, c'est-à-dire une série de choses qui se nouent, quoi. Et là, c'est très important parce que si on le pense de cette manière-là, on s'aperçoit que tout au long de l'histoire du monde, pas seulement en Occident, hein, on le trouve la même chose du Japon avec la Chine, on trouve les mêmes choses avec certaines royautés africaines, avec d'autres, en particulier l'Éthiopie et les voisins, c'est un peu pareil. Il y a une construction intellectuelle de la domination. Or, la question de la question coloniale, on a l'impression que c'est le contemporain, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau. Et que si on le pense comme une nouveauté, on pense aussi qu'il y a une période où cette colonialité-là intervient. Et que cette colonialité-là, elle intervient au 19e siècle, au plus moins un peu en arrière. Or, moi, je pense qu'une fois qu'on a défini la colonialité comme une sorte d'emprise de domination politique sur des populations, c'est très ancien. Et c'est même présent en Europe jusqu'au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les classes dangereuses en France, ou les matériaux en Angleterre, ou encore les paysans en Pologne, même les paysans ici, les jacqueries ici, il y a tout un discours intellectuel qui prend en charge ces populations-là. Donc, si on considère que c'est le colonial qui est la rupture décisive dans notre contemporanéité, j'ai l'impression qu'on a un peu tort. Donc, il faut... Alors, si on le fait aussi, on s'autorise pas à penser la plénitude du discours intellectuel, puisque la racine n'est pas celle qui, c'est pas la dernière racine qui est la seule qui permet de structurer le reste, quoi, en gros. Donc on est obligé de tenir compte de tout ce qui était, tout ce qui s'est passé avant. D'où la question, justement, vous avez souligné ça, le multiversalisme. Moi, je fais partie d'une association, peut-être vous connaissez No Why, avec No Why, vous connaissez, avec Michael Kuhn. Voilà, je suis un peu membre fondateur de cette association donc qui milite pour ce qu'on appelle le multiversalisme. De considérer qu'il n'y a pas qu'une seule façon européenne de penser la réalité du monde, quoi. Et qu'il y a des propositions concurrentes, y compris à l'intérieur de l'Europe, dont il faut tenir compte. Donc il y a toute une pensée, ça va de la Corée, de Singapour, au Japon, en Amérique latine, même en Angleterre. Bon, il y a plein de gens qui contribuent à cette nouvelle épistémologie-là. Donc, je pense que c'est très important de l'amener ça sur la scène, quoi. Alors. Voilà, c'est ça, c'est l'injustice cognitive, justement, parce que voilà, d'où est-ce qu'on va situer cette injustice cognitive? Alors, comment on va situer cette injustice cognitive? Moi, j'ai du mal à comprendre, mais si on ramène dans ma proposition que je viens d'indiquer, on comprend aussi que ce n'est pas simplement les institutions, ce n'est pas seulement les mots, parce que vous avez dit qu'il y a une question linguistique. On a publié, je crois l'année dernière, un bouquin collectif avec Elisio Macamo et Diawara et moi-même, qui était un bouquin collectif, sur la traduction. Alors, nous sommes arrivés à dire, en fait, on a tort de considérer que la traduction, c'est une question de mots. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'une sorte de réduction. On considère l'effet, on prend l'effet pour la cause, quoi, en fait. Parce que si les gens sont d'accord, s'il y a une fraternité, le mot qui va décrire ou mettre en relation les gens, c'est les mots de la fraternité. Si c'est le contraire, c'est la haine, les mots qui vont sortir, ça va être la haine, y compris quand on va désigner une banane ou n'importe quelle autre chose. L'inégalité fondamentale qui va sortir de l'institution des relations sociales, c'est ça qui va s'inscrire dans les mots. Donc, il faut peut-être enlever les mots pour regarder la construction interne précédente des valeurs, c'est-à-dire des valeurs de classification, et c'est ça qui va nous permettre. Donc, une vraie traduction, c'est la façon dont on met les choses en correspondance, en réalité. y compris les hommes avec les choses. Et, voilà. Et cette mise en correspondance des hommes avec les choses, elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, Pythagore, c'est le fondateur de la science politique. Oui, en pensant que le système 1, voilà, comme vous connaissez, a structuré, a été un outil politique plutôt qu'un outil... voilà. Donc, on comprend que c'est l'examen de cette critique-là qui est importante à mettre en avant, à mon avis. Et nous, on a essayé de proposer ça. Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire à vous offrir. Le livre étant cher. Et voilà, il y a aussi... Voilà. Bon, il y a la question aussi du... Vous avez terminé un peu par ça, du capitalisme. Et là, c'est aussi... C'est aussi une des façons de limiter les origines des choses, moi, je pense. Parce que la question de la domination, elle est antérieure au capitalisme. Voilà. Et il y a certains cadres idéologiques et intellectuels qui précèdent aussi le capitalisme. Et qu'à l'intérieur même de ce grand processus capitaliste-là, il y a les cours de Maastricht qui expliquent ça très bien. Il y a des compétitions entre la philosophie sympathique et la rationalité de Descartes. Il y a une compétition. C'est les rationalistes qui ont gagné, hein. Donc vous le savez. Donc il y a des compétitions à l'intérieur aussi. Donc il ne faut pas oublier aussi ces types de choses qui viennent, qui s'inscrivent dans notre façon de penser, dans les concepts qu'on utilise, dans les choses que les mots et les structures que nous utilisons viennent aussi de là. Donc, c'est un gigantesque travail que vous avez commencé là. C'est énorme, comme c'est retourner notre système comme un gant. Et ça, c'est pas évident à faire. Donc, je sais pas. Bon. Donc, je vous y encourage en tout cas, même si je sens que ça va pas être simple. Par contre, je voulais attirer votre attention sur un des éléments. Dans le système actuel de notre épistémologie, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Comment dire, il y a un Australien qui a fait un bouquet très intéressant sur justement ça, sur Louis Dumont et Lévi-Strauss, où il explique justement qu'il y a une façon, il y a deux, enfin lui il en a défini deux. Est-ce qu'il y a une façon d'engager le projet scientifique dans le sens de la compréhension? C'est-à-dire qu'on se comprend, c'est-à-dire qu'on prend avec soi. Donc on essaie de... Voilà. Et puis une autre façon qui est de la préhension. Et il estime que, pour l'instant, renforcé par le capitalisme sexe, mais les formes d'esclavage et les prédations des régimes antérieurs faisaient pareil, en fait. Donc il y a une façon d'appréhender les choses. Donc, quand on arrive dans les sociétés pendant la période coloniale, c'est justement cette façon de préhension, cette intellectualité de la préhension qui était la plus utilisée. Et pas... Bon, il y a un beau texte de Ageron qu'on a cité ce matin sur les Kabyles, où il explique justement comment on passe de l'ethnologie à la politique kabyle, quoi. Donc, on voit comment... Le système colonial s'est servi, enfin, à utiliser une façon particulière. Il dit, on ne sait pas si les Kabyles font de la poésie. Est-ce que vous en savez? On sait simplement comment structurent les parentés, comment circulent les richesses, comment on produit. Mais la subjectivité, je dis des choses simples, mais il y a d'autres pans des sociétés qui sont complètement niées. Ils ne sont pas vus, ils ne sont même pas, qui apparaissent pas comme intéressantes. Et là, comment rapatrier ces éléments oubliés, enfin, ou négligés de notre épistémologie, ça, c'est un vrai problème. C'est comme si on avait institué des sortes d'équations et que ces équations-là fonctionnaient avec ce que nous voulons que nous trouvions utile, mais ce qui nous permet de comprendre l'ensemble n'est pas là. Vous voyez? C'est un peu ça l'enjeu de ce monde. Ce n'est pas seulement de crier, je vais décoloniser, hein. De dire c'est la race. Ce n'est pas seulement de faire de la déclaration, mais de regarder au fond enfin même comment c'est structuré les modes de pensée, comment c'est structuré les façons d'étudier et d'approcher les autres. Et là, c'est, bon, c'est quand on aura achevé ce travail-là, peut-être qu'on aura une université, comme vous dites, qui sera beaucoup plus équilibrée. Mais peut-être que ce n'est pas encore demain la veille. Voilà, en ce qui concerne les mouvements sociaux à la Martinique, voilà, moi j'ai beaucoup parlé, donc je serai bref, je laisserai à mon voisin la suite. La question, c'est de savoir, de quelle manière ce passé-là, parce que quand je vous ai écouté, le passé dans l'écriture, je me suis posé la question, est-ce que c'est l'écriture et la lecture que les populations, le peuple, enfin la population en Martinique fait, ou bien c'est vous qui, en regardant le processus de mouvement, vous y voyez des éléments du passé? Vous savez que, en vous écoutant, je n'ai pas vu la distinction entre votre position de distance, en regardant un peu les gens de loin, en disant, ben oui, ça, c'est les traces du passé. Ça. Bon. Mais je n'ai pas non plus vu de l'intérieur comment les populations, en particulier les populations noires, bon, le béké, vous avez très bien expliqué les racines, la généalogie. Mais voilà, j'aimerais bien voir, est-ce que les deux se correspondent ou pas? Est-ce que les deux échelles se correspondent ou pas? Il y a un moment d'intersection des deux échelles, si j'ose dire. Oui, je vous pose la question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Non. Il y a deux instances, deux niveaux. Vous, en tant que chercheuse, vous observez un mouvement. Et comme le mouvement lui-même, il est fractionné, voilà. Moi, je me demande, comment émergent les catégories historiques dans les trois moments de votre enquête? C'est pas maintenant, hein. Je vais laisser la parole. Ouais, non, on va pas. Voilà, c'est juste. Voilà.
Donc, ouais, allez, je vais essayer de rebondir, du coup, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui rejoignent ce à quoi ces interventions me faisaient penser, moi. Ce qui me saute le plus aux yeux et qui rejoint effectivement ce que tu viens de dire, c'est la multiplicité des voix, y compris à l'intérieur d'un même mouvement, d'un même événement, etc. Une phrase que Céline, tu cites, est quand même assez géniale, c'est « nous ne savions pas comment nous définir », c'est ça? C'est une assez belle phrase, je trouve. Je pense que, en tout cas, moi, en tant qu'ethnologue, mais du coup un peu sociologue aussi, il me manque un petit peu de sociologie, justement, d'année sociologique de ce mouvement-là, et de savoir qui sont les différents acteurs. Donc, effectivement, j'ai bien compris la différence béké et population martiniquaise noire, mais j'ai un souci à l'intérieur des manifestants pour comprendre ce que je vois comme, en fait, un collectif qui est tout sauf évident, en fait. Donc, voilà, j'ai un certain nombre d'interrogations à ce niveau-là. Et assez rapidement, parce que sinon, ça va être vraiment long, dans ton article, tu avais parlé de communitas pour mettre une catégorie, pour définir ce qui se passait pendant ces événements-là. Donc moi, en tant qu'anthropologue du religieux, communitas, ça me parlait pas mal. Et je trouvais intéressant, justement, que cette idée de communitas, donc d'une communauté à la fois égalitaire, mais en même temps temporaire, qui vient des études du pèlerinage, donc du côté de l'anthropologie du religieux. Et en même temps, c'est un paradigme qui a été assez contesté, justement, ou qui demandent à être complétées, souvent, quand on fait l'anthropologie du pèlerinage, par l'autre vision qui est de considérer le pèlerinage comme un espace de discours concurrents, justement, en tout cas de différents discours, dont certains peuvent être concurrents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils soient forcément concurrents, mais c'est qu'en tout cas, il y a différents discours. Et comment ces discours s'articulent, et est-ce qu'ils s'articulent? Parce que finalement, je présupposerais pas du fait qu'ils sont nécessairement articulés, parce que ça voudrait dire, s'ils s'articulent, ça veut dire qu'il y a un collectif qui se forme, et ça, on ne le sait pas d'avance, je veux dire. Et dans ce cas-là, c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que ça saute pas aux yeux. Qu'est-ce qui ferait le collectif? Est-ce qu'il y a un collectif? On ne sait pas bien. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette analogie avec le pèlerinage, c'est une espèce de tension entre, à nouveau, on va retomber sur des choses qu'on a vues avec Maud ce matin, une idée d'une narration collective, et en même temps, il y a des instances individuelles au milieu ou à côté de cette narration collective. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment, comment s'articulent ces différentes, qui sont toutes individuelles et toutes différentes narrations. Ce qui se passe lors du pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage est censé être quelque chose de collectif, mais en anthropologie du religieux, on voit aussi que le pèlerinage, c'est un moment, c'est un espace où justement l'individu échappe. C'est ça, la communitas a certaines injonctions sociologiques, à certaines catégories sociologiques imposées. Donc, c'est un moment d'individualisation, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir ces tensions. Et je pense que dans le champ du mémoriel, et là, je rejoins ce qu'on disait ce matin avec Maud, cette articulation-là est cruciale, j'allais dire. En tout cas, c'est celle qui m'intéresse au premier chef, c'est comment on articule ces mémoires, ces narrations individuelles et collectives. Bon, c'est surtout à ça que je pensais en écoutant ton intervention. Et puis, parmi d'autres choses, hein, mais pour revenir du coup sur Nikki et l'intervention, comment tu en as parlé, moi je suis un peu gêné pour ce qui est de l'épistémologie et du positionnement, en fait, de la réflexivité qu'on peut avoir en tant que chercheur en sciences sociales. Je pense qu'on... Peut-être c'est parce que je suis ethnologue aussi, mais il faut voir les choses... Enfin, moi, je serais partant pour voir les choses plus simplement, quelque part, et avec un regard historique aussi sur nos disciplines, qui fait qu'on retombe dans la colonisation et dans des paradigmes, et on connaît les histoires croisées de l'anthropologie comme discipline et de la colonisation. En même temps, c'est une histoire qui a évolué. C'est une histoire où l'anthropologie en tant que discipline s'est petit à petit quand même détachée d'un certain nombre de paradigmes trop ancrés dans le colonial. Et finalement, on parle de... soit on parle d'une impossibilité, c'est-à-dire qu'en tant qu'ethnologue, je sais parfaitement que ce que je fais, ce n'est pas possible. Je ne peux pas parler pour des gens qui ne fonctionnent pas comme moi. Je ne peux pas écrire dans une autre langue la façon de fonctionner d'une société qui a sa propre langue. Donc, je dois être très vigilant épistémologiquement. Je dois faire preuve d'une réflexivité, c'est nécessaire. Du coup, oui, moi, je suis anthropologue du religieux et de l'hindouisme. Religion, en Inde, il n'y a pas de traduction. Hindouisme, c'est un terme qui n'existe pas dans les langues indiennes. Je suis un anthropologue du sacré, mais sacré, ça n'existe pas en Inde. Donc, je dois faire attention à tous les termes que j'utilise et je dois bien faire ce sacrifice qui est d'utiliser des termes qui sont dangereux. Donc, je dois rester vigilant. Après, ça ne m'enlève pas, je trouve, la légitimité du discours que je peux avoir en tant qu'anthropologue, si tant est que je reste vigilant. Mais je n'irai pas jusqu'à renverser le gant, par exemple. Plutôt situer mon discours dans ce qu'il est, c'est-à-dire un discours extérieur où je cherche à comprendre une vérité. Il y a un côté positiviste un peu désuet, mais je pense que je peux accéder à un peu plus de compréhension de ce que j'étudie. Et à côté de moi, ou en dialogue avec moi, il va y avoir des militants qui ont un autre type de discours, une autre épistémologie, qui vont avoir aussi d'autres visées. Et on peut certes entrer en dialogue. Par contre, il faut que chacun reste aussi avec probablement les forces et les faiblesses de son épistémologie, j'allais dire. Mais je pense que ce n'est pas parce que je mène une recherche qui a des fondements qui sont une impasse, c'est-à-dire je ne peux pas faire de l'ethnologie, ça ne peut pas se faire, que je renonce à ce que ça m'apporte intellectuellement, ce que ça m'apporte de meilleure compréhension de l'autre, et avec l'empathie que je suis capable d'y mettre aussi individuellement et en faisant partie de la communauté de chercheurs. Donc je trouve que quelque part, finalement, les choses sont très compliquées et en même temps elles sont assez simples parce que c'est des questions qui n'ont pas attendu que l'académie, enfin les chercheurs académiques se confrontent aux militants. C'est des questions que l'anthropologie se pose depuis le début, pratiquement, et de cette légitimité de son discours, qui sont très intéressantes, qui ne doivent pas aller jusqu'à faire taire le résultat des recherches. Je veux dire, il faut aussi entendre ce que l'anthropologue a à dire. Je trouve que c'est intéressant, ce serait dommage de se priver de ça. Et ça, oui, donc on s'inscrit un peu dans des questionnements qui sont nés avec l'anthropologie et qui ont évolué et qui, je trouve, évoluent plutôt bien. C'est-à-dire que la réflexivité, elle fait partie de l'anthropologie maintenant. C'est pas quelque chose qui est, on surprendrait quelqu'un en faisant une thèse sans aucune réflexivité. Ça n'existe plus non plus. Donc. Voilà ce que m'inspirait.
Oui, est-ce que je peux m'autoriser à faire un tout petit commentaire? Oui, parce que vous ayez le temps puis que ça aille dans le sens de ce qui vient d'être dit. Donc, oui, moi, je reste surtout surprise. Ça serait presque un objet d'étude anthropologique de voir la différence entre ce qui est possible à faire côté anglophone, enfin britannique et américain peut-être, pas anglophone en général, et côté français. Et ça m'interroge énormément. Donc c'est impossible de concevoir, comme je le disais, l'expérience qui a été conduite, qui est assez révolutionnaire entre guillemets, en France. J'ai encore l'exemple très récent d'un séminaire où nous avons invité comme témoin, il était en tant que témoin d'un mouvement militant pour les réparations, donc où il a été, c'était une hérésie, et mes collègues présents étaient plutôt là pour observer et noter les comportements et ce qui se faisait, ce que faisait ce témoin en rapport avec notre problématique. Donc nous n'étions même pas comme en dialogue. Il y a vraiment cette position de surplomb qui reste une arrogance. Une arrogance, c'est quand mes collègues qui appartiennent au courant décolonial parlent de violence épistémique. Je suis moins dans ce discours que j'apprécie aussi, mais moins dans le discours de la discipline en tant que médiation et dialogue, traduction, comme à la Geertz, etc. On est par moments, on crée de véritables situations de violence épistémique. Et oui, moi, j'avoue que des colloques où nous ne sommes que, et nous en avons vécu un mode, je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme moi, mais ces panels où nous sommes et nous étions ensemble, vous vous rappelez, nous en avons parlé après, où nous avons même lu des textes, des voix des autres que Niki nous avait fait lire, et devant nous, nous avions que des Antillais. Et nous étions autour de la table, 1, 2, 3, 4, 5, je crois, non, il y a une autre personne, donc 4. Et je sais, des personnes me l'ont dit après, mais sans aucune violence. Nous, on renvoie quelque chose de violent, et je me dis, il y a une capacité à accepter cette espèce de règle du jeu où le monde académique est quand même fortement organisé, basé sur une relation de dissymétrie. Et il y a une espèce d'acceptation, voire de... Peut-être que là, il y a une ironie que nous, on ne sait pas décrypter. Et on est peut-être vu de manière ironique, mais c'est vrai. Hein, dans les commentaires qui m'ont été faits, il y avait de l'ironie. Il y avait de l'ironie, pour revenir à ce matin. Et juste dire que ce que je t'ai dit très, très vite... Moi, je suis épatée par ce projet. Si j'avais à me situer, j'irais beaucoup plus de ce côté-là, tout en quand même questionnant. Ça me rappelle, comme je te le disais, la problématique mémorielle, quand on s'est mis à construire une mémoire de l'esclavage dans l'espace public. Cette construction académique qui, tout d'un coup, enfin, qui me semble être du côté de notre côté franco-français, du vraiment une étanchéité, pas assez de dialogue, pas assez de perméabilité entre la parole qui n'est pas autorisée dans l'espace académique et celle qui est autorisée. Donc là, nous, c'est vraiment du pas assez. Hein. On passe très vite. C'est une insulte quand même d'être... Mais c'est quoi ? C'est un discours militant que tu tiens ? Quand on nous renvoie ça dans nos analyses, quand on travaille sur la domination, etc. Et de l'autre côté, votre expérience qui, là, du coup, me paraît du trop. Il y a quelque chose, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais tout d'un coup, comme si une machine s'était mise en marche et qu'elle tombait dans un excès et que du coup, l'abondance de signes, quelque part, fait perdre le sens. Tu vois, on est dans de l'abondance. C'est juste, c'est intuitif hein, ce que je dis. Et ça me rappelle cette comparaison que j'avais faite, et je crois que tu la connais, cette recherche, hein, entre les deux dispositifs, les deux politiques mémorielles au même moment en France et en Grande-Bretagne, où tout d'un coup, une machine s'emballe et qui fait du multiculturalisme à fond, mais qui ne traite pas la question sociale, hein, qui la laisse soigneusement. Et du coup, l'abondance des signes donnés dans l'espace public pour dire « oui, on prend en compte votre mémoire, oui, vous êtes déçu, vous êtes là, citoyen, sujet, etc. » Et en même temps, on laisse de côté la question la plus importante. Et là, j'ai l'impression, et je l'ai eu avec Catherine Hall, je prononce mal son nom, qui est venue, qui a fait une conférence avec le groupe d'historiens britanniques impliqués dans ce projet sur les indemnités, combien, etc. Et j'avais l'impression que ce qui s'était passé à l'abolition était en train de se repasser. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir un staff baptiste devant moi qui était en train de faire et cette abolition dont on sait qu'elle correspondait à un moment précis de l'histoire, etc. Est-ce que ce mouvement des réparations, aussi dans son acceptation de la revendication des réparations et de montrer à tout prix qu'on la prend en compte, ne correspond pas politiquement à quelque chose voilà, mais c'est intuitif, hein, et pas construit. Et quant à Céline, bon, bah, moi, Céline, tes travaux, hein, je suis tellement contente parce que ça me permet d'asseoir les miens, qui sont, voilà, hein, je le dis franchement, hein, parce que personne ne parle de la domination Becquet, c'est un peu un tabou encore. Hein, et là, alors là, du coup, on devient très vite militant si on parle d'une domination Becquet. Donc, moi, je te le dis franchement, je suis très heureuse que tu aies fait ces travaux par rapport à ce qu'ils vont me permettre de pouvoir avancer dans mes recherches qui portent, comme tu le sais, sur la récupération de l'art pour la reproduction d'une position d'élite. Donc, quand je dis ça, non, on ne voit que la bonté, puisque les Becquet ont adopté une nouvelle stratégie face à ce mouvement de 2009 et au mouvement des réparations, stratégie qui consiste à capter l'offre artistique qui était césarienne, hein, qui était Césaire, le très beau, la photo que tu montres. Et aujourd'hui, l'art est, entre guillemets, mais c'est presque vrai, la propriété des Becquet, avec le musée d'art contemporain le plus... oui, de plus grande qualité de la Caraïbe. Hein, voilà. Donc, moi, c'est juste te remercier d'avoir fait ces travaux. Alors, on donne la parole à qui en premier ?
Merci à vous tous pour tous ces commentaires. Je ne sais pas où commencer, mais voilà, en ce qui concerne le mot strat, je suis tout à fait consciente que c'est un mot qui est lourd de sens philosophique, et surtout dans les sciences sociales. Et je suis aussi consciente, surtout parce que mon mari m'a dit, mais tu n'utilises pas le mot strat correctement. Et j'ai dit, non, je l'ai utilisé comme une sorte de métaphore. Oui, je sais que c'est une faiblesse. Je suis consciente du fait que c'est une faiblesse dans ma présentation. En ce qui concerne, je ne peux pas répondre à tous les points, mais vous avez dit quelque chose concernant... je pense que vous avez demandé si le colonialisme représente la rupture définitive ou quelque chose qui a vraiment changé la direction du monde ou quelque chose comme ça. Mais je pense que si on entend, écoute les récits des passionnés, des activistes et des gens qui sont les plus concernés par cette histoire, l'histoire de l'esclavage est toujours définie comme une rupture fondamentale. Donc c'est ça qui... c'est cette histoire qui m'intéresse. Mais bien sûr, il y a aussi, après cette histoire, avant cette histoire aussi, ce concept du colonialisme qui a une très longue durée. Donc, je pense que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Et puis, il y a d'autres traces de cette histoire qui réapparaissent aujourd'hui. Comme par exemple, j'ai parlé à Charles il y a quelques minutes. Par exemple, le fait que nous envoyons... Nos ordinateurs ou nos machines à laver a été jetées dans une terre en Guyane, par exemple. Donc, c'est un autre moyen d'exploiter cette terre. Donc, je le vois comme une rupture fondamentale parce que c'est comme ça qu'il a été narrativisé. Je ne sais pas si c'est un bon mot. Donc, voilà. Voilà. D'autres. Oui, je pense que la construction des autres, bien sûr, c'est quelque chose qui ça existe pour toute l'histoire, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a quelque chose de spécifique, je parle de ça. En ce qui concerne les commentaires de Mathieu, je pense que je travaille dans une... je travaille parmi les activistes, avec les activistes, sur un sujet qui est hyper sensible. Donc, c'est pour ça que j'ai cette approche à mes recherches. Et je ne veux pas dire que ça concerne tous les autres chercheurs et chercheuses, mais ce n'est pas ce que je travaille sur les réparations. Et en fait, l'anthropologie, pour moi, a été absolument fondamentale pour comprendre comment y trouver d'autres moyens d'aborder la recherche. Parce que l'évolution dans l'anthropologie a été extraordinaire. Mmh. Donc oui, il faut faire... je comprends un tout petit peu ce... l'anthropologie, c'est très, très utile pour moi. Mais si peut-être mon approche à mes recherches peuvent être utiles pour les autres, tant bien, mais je ne dis pas que ça doit être la même chose pour tout le monde. Et aussi, je ne veux pas dire aussi qu'il faut qu'on oublie toutes les connaissances, mais il faut un peu comme il y a ce symbole de Sankofa, qui est un symbole Adinkra, qui vient de l'ouest de l'Afrique, avec l'oiseau qui a la tête tournée en arrière et qui prend l'eau, qui a les pieds qui sont en avant, qui pointent vers le futur. Et ça veut dire qu'il faut prendre du mieux de notre passé pour construire notre avenir. Donc c'est plutôt dans cette démarche. Je pense qu'il ne faut pas rayer tout. Il ne faut pas la grande révolution où on va oublier toutes les choses. Mais il faut prendre ce qui est mieux de toutes les cultures. Et il faut protéger les connaissances qui sont en train d'être complètement écrasées par la marche du capitalisme. C'est ça qui me concerne aussi. Et Christine, voilà. Donc, juste pour me rappeler ta question. C'était sur la politique.
La différence qu'on en a.
Ah oui.
Et le fait de me questionner sur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui risque d'être aussi artificiel, entre guillemets, quand je compare le peu de mémoire, tu sais, ça me rappelle la problématique de la mémoire.
Oui. Il n'y avait rien, nulle part. Et maintenant, avec les réparations, il n'y avait rien.
Un peu oui. Du côté français, modèle oui. Assimilationniste, et du trop, modèle culturel. Est-ce que, tu vois, ça me rappelle ce schéma-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui risque de faire du sens à. Parce que ça a l'air d'être. Mais en même temps, je vais aimer te demander, comment ça a pu se passer ces dialogues. Vous n'êtes pas étriqué par moment, quand même. Parce que quand le monsieur dit, le monsieur, là, le collègue, là, que les Africains, etc., on ne peut pas oublier, comment un Cécile Gottsmore, que je connais bien, comment il réagit à ça?
Oh non, c'était terrible. C'était terrible. Ah. Donc j'ai donné. Non. Voilà, j'ai donné une certaine image, mais voilà, non, c'était très fort.
Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu là-dessus?
Ce qui s'est passé? Oui. En fait, j'étais assez surpris que je peux dire son nom parce que c'est nous avons une vidéo, donc on peut voir un tout petit peu la dispute qui a eu lieu. Mais voilà, j'étais un peu surprise par ce que Nick Drape a dit. Et la réponse était très agressive, en fait, pas de la part de Cécile Gottsmore. Il a été super gentil. Mais il est gentil. Mais de la part d'une autre activiste qui était très agressive. Et je pense que souvent, c'est à ce moment-là qu'on voit que la conversation s'arrête complètement, parce qu'il y a émotion, et voilà, tout le temps on voit que les militants, et je vois la même chose ici en France, les militants sont définis comme des personnes avec trop d'émotions. Et parce qu'ils ont trop d'émotions, on ne peut plus continuer à parler et comprendre leur point de vue. Donc oui, c'était la même chose, c'était un échange assez chaud, et je me suis dit, c'est la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'était la conférence à Londres. Non, c'était la première conférence que nous avons faite. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Mais après ce moment de... Parce que nous étions dans une centre... Je pense que si nous avons été dans une universitaire, il aurait été différent. Mais parce que nous étions dans un centre communautaire et parce que cet espace a été créé pour soutenir les dialogues, tout s'est bien passé, enfin. Donc, Nick Drape a réagi, comme il a voulu réagir. Et puis, après le colloque, ils ont eu... En fait, ils ont trouvé une sorte de point d'accord. Donc, ça a été très important. Et aussi, nous avons eu beaucoup de discussions autour du terme esclavage. Est-ce qu'on peut parler de l'esclavage modern day slavery, donc c'est un terme très problématique. Est-ce qu'on peut parler de ça, mais ne faut-il pas avoir d'autres termes pour parler de ça, enfin, de garder la spécificité de l'esclavage colonial, même si ce n'est pas... Voilà. Donc, oui, c'était un échange très chaud. Je vais dire plus, mais je ne vais pas.
Oui, moi, ça va être très, très bref parce que je suis obligé de partir, oui, malheureusement. C'était pour remercier Christine parce que depuis plusieurs années, en fait, j'apprends énormément de choses. Donc, j'étais très content de la qualité à la fois des interventions. La qualité des interventions, également des commentaires. C'est extrêmement éclairant, je pense, pour tout le monde. Et ce que je trouve très bien, parce que finalement, à travers Innosar, on parle beaucoup de la question du partage, de l'éthique, du savoir. Enfin, on se pose ces questions-là, je pense qu'il faudrait y travailler beaucoup. Même au sein de nos mondes académiques, cloisonnés, etc., avec nos habitudes. Et donc moi, personnellement, je vis ça à MCTM depuis plusieurs années, donc je suis assez content, parce que ça, c'est un groupe qui permet en fait, de faire d'être dans un double mouvement de décentration, si je puis dire. On se décentre depuis son aire. Donc moi, je travaille sur l'océan Indien et une partie de l'Afrique continentale. Voilà, donc effectivement, on est toujours un peu dans ce type de monde. Hein. Et en même temps, se reconcentrer sur ces mondes. Enfin, c'est l'intérêt aussi du comparatisme. Hein. Donc ça me paraît très bien. Il y a eu beaucoup de questions épistémologiques fondamentales et pas seulement éthiques. Hein. Ça aussi, je pense que ça demande à le multiversel. Effectivement, penser la domination dans un temps long, mais aussi dans ces séquences contemporaines. C'est quoi le contemporain? Donc ça m'a vraiment paru génial. sur la polysémie de ce que c'est qu'un événement. C'est une grande question en philosophie, en sciences sociales, en histoire, bien sûr. Hein. Donc, tu disais au début, hein, peut-être une tension, une articulation entre la version Ben Safa 5, etc., et celle de Koselleck. Alors, là-dessus est venue se greffer la question, donc la métaphore un peu géologique de la strate et tout ça. Et quand même rappeler, effectivement, on en parlait un petit peu avec Jean-Baptiste, aussi avec Mina Klech qui a dû partir. Si on prend au sérieux hein, ces histoires de l'historicité de la Terre, hein, donc des dépôts successifs, on voit bien, on a vu sur la slide de Niki, qui d'abord c'est des couches, donc en fait c'est meuble aussi, hein, ça bouge et ça bouge tout le temps. L'écorce terrestre, ça bouge tout le temps, comme vous le savez. Et des fois, ça fait très mal, comme vous le savez aussi. Mais en fait, il y a aussi la tectonique, donc il y a des mouvements de fracture. Donc il y a l'horizontale qui bouge. Et il y a les fractures. Et en fait, quand on regarde des cartes géologiques, etc., moi, je suis historien, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est vraiment passionnant. Ça se déplace. Déplacements verticaux, des déplacements verticaux, puis latéraux, etc. Ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas de linéarité. Enfin, l'un des legs, en fait, d'une compréhension de l'histoire de la Terre, etc., ou de l'écorce, etc., c'est que ce n'est pas un truc linéaire, quoi. Et moi, je pense que parallèlement, peut-être qu'il y a un truc qui pourrait être fait, c'est aussi travailler un peu avec les psychanalystes. Hein, on a 100 et quelques années de psychanalyse. Hein, donc Freud, déjà depuis très longtemps, hein, le palimpseste, les choses qui s'effacent, qu'on efface, qui réapparaissent, qui ressurgissent. Donc je pense que le dialogue... Bon, effectivement, on a parlé de Ricoeur, etc. On a parlé de Nora. C'est vrai qu'on aurait pu parler... Avec Mina Klech, on en a évoqué ça. Les moments antérieurs, dans le contexte purement français. Donc la guerre un peu entre Albax et les Annales. Ça, c'est les années 20. Albax, donc, est quand même une super référence en sociologie de la mémoire. Il a fait ça contre les Annales. Hein. Et il faut attendre, en fait... Ouais, ouais. Et il faut... Oui, voilà. Et donc, c'est à la fois de l'interne et externe aux disciplines, et puis un peu dans un contexte national français, post-Première Guerre mondiale, quand même, une grande rupture. Mais ce qui est assez intéressant, c'est aussi, avant Nora, en fait, il y a eu le livre de Jacques Le Goff sur histoire et mémoire. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il l'a fait un peu en solo, et c'est un héritier, donc ici, en plus, le HESS, un héritier des Annales. Et c'est Laterza, donc les Italiens, qui lui commandent un bouquin sur histoire et mémoire. Il le fait en parallèle de Nora, qui, lui, a carrément... c'est un grand truc. Voilà, c'est le séminaire. Ça le conduit, d'ailleurs, à un lieu de mémoire à l'Académie française aujourd'hui. Hein. Bon. Et effectivement, moi qui travaille... Je suis français, donc forcément, quand je travaille sur Madagascar ou le Mozambique, en l'occurrence, etc., ou sur l'Afrique, de manière générale, je veux dire, je suis français. Ça ne change pas. Donc, peu importe que moi, mon travail, c'est de... Et on dialogue là-dessus, hein, de montrer qu'il y a une historicité ou des historicités africaines ou asiatiques, etc. Et Mathieu est là pour l'Inde ou pour d'autres, qui n'ont pas attendu l'Europe pour dire ce que c'est qu'une domination ou d'autre chose, ou l'émancipation. Mais je suis français, j'y peux rien. voilà, comme beaucoup d'entre ceux qui sont là. Ça veut dire, en fait, que peu importe sur quoi, moi, je travaille, je dois aussi... en termes de positionnement de réflexivité, faire l'historicité de ma discipline dans mon état-nation, mon histoire. Et là, pour revenir à Le Goff, c'est intéressant parce qu'il n'est pas dans une sorte de combat comme Nora ou de remixage de réinvention du mythe de la Troisième République, tout en prétendant le déconstruire. Non, il fait un travail, vraiment, il lit des psychologues, il lit un tas de choses. Moi, je vous recommande ce petit bouquin, hein, qui a été... Ensuite, on a eu la version française. Après, j'avais dit que j'allais être bref, mais en fait, finalement, c'est super long. Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement ce qui se joue là dans Innosar, parce que c'est des choses qui existent depuis. Enfin, on va pas dire que ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai que ça peut rejouer hein, d'autres combats. Ce qui me paraît passionnant, en fait, c'est que là, on saisit, on a une sorte d'ethnographie ou photographie. À un moment un peu fondateur. Donc, ils ne se connaissent pas forcément tant que ça. Donc, ça clash, c'est normal. Parce qu'une culture commune, ça se fabrique, ça prend du temps sur des sujets sensibles. Forcément, ça clash au début, etc. Hein. Parce qu'après, moi aussi, effectivement, moi, je le comprends, le collègue. Moi aussi, j'allais dire, quand même, histoire générale de l'Afrique. Hein. Dans l'histoire générale de l'Afrique, qui est en plusieurs langues, qui est accessible pour tous les militants et tout le monde, Je veux dire, c'est quand même venu d'Amadou Matarbo, qui est africain. Ça se rattache à une longue histoire, dans laquelle il y a une négritude et tout ça. Donc ça vient aussi, en fait, beaucoup d'Africains qui, à un moment donné, Bo est à la tête de l'UNESCO de 74 à 87. Et ce vieux projet des années 60, qui est aussi un projet des indépendances, hein, que les Africains aient une histoire, hein, parmi d'autres histoires, eh bien, il est porté, alors dans la sociologie en fait de ces différents volumes, et le 9 va bientôt sortir, eh bien, il y a effectivement, c'est pas racialisé, mais c'est quand même les Africains, hein, qui ont la main sur cette affaire-là. Et là, on voit qu'il y a quand même esclavage, il y a traite, il y a tout ça. C'est vrai que le premier mouvement, c'est un mouvement un peu identitaire, dire mais ils connaissent pas ça quand même, voilà. Je veux dire, c'est super banal de dire que des pouvoirs et des historicités africaines se sont renforcés par la traite, c'est super banal. Que ça ne passe pas maintenant, c'est bizarre, parce que pour moi, c'est des mauvais combats. Enfin, et ça fait qu'après, y a un décrochage, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, entre des intellectuels, activistes ou pas, bon, en diaspora, et ce qui se passe dans des pays africains où souvent l'esclavage est tabou, pour le dire très très vite. Hein. Et on oppose souvent, si on parle d'esclavage, eh bien on ne va pas mettre en avant des figures nationalistes. Bon, Ibrahim Atioub, voilà, il fait partie des gens qui se battent pour qu'on ait les deux. C'est-à-dire qu'on ait une historicité de l'Afrique qui conduit à un moment donné à des projets nationalistes et anticoloniaux, et puis qu'on ait aussi une réflexion sur les dominés, les acteurs différents qui ont été dominés. Moi, je travaille beaucoup sur Madagascar, et donc l'un des derniers bouquins qui a été fait en fait sur l'histoire de l'esclavage et ses résurgences contemporaines a été complètement. Il y a eu une super omerta des intellectuels et une bonne partie de l'intelligentsia malgache et des dominants malgaches. Et ça, c'est pas le monde colonial. Hein, on pourrait en parler. On avait fait une journée d'études sur l'océan Indien. Hein, c'est aussi de l'interne. Bon, et donc. Mais bon, voilà, là c'est plus ma spécialité qui parle. Mais c'était pour finir, effectivement, je trouve que ça avance bien parce que ce projet MCTM, avec à la fois, tu fais en sorte qu'on se concentre sur ce paradigme caraïbe, hein, qui est complexe en fait. Hein, c'est vraiment, plus je viens et plus je m'aperçois que c'est super complexe. Mais en même temps, une ouverture à l'universel, au multiversel. Parce que parfois, ce que moi j'entends, ça fait écho à des situations qui sont peut-être assez différentes, dans lesquelles il y a le colonial, mais c'est qu'une séquence. Et donc, voilà, donc, j'étais assez content de continuer à travailler dans ce cadre-là.
Merci. Didier, tu es maître d'œuvre aussi dans ce groupe. Le groupe ne serait... C'est pas moi seulement, c'est Didier Nativelle, Mathieu Renaud. Ouais. Mais le fait de ce que tu dis prouve bien qu'il y a peut-être cette histoire de paradigme quelque part. C'est pas parce que ce que j'ai peur, c'est que ce soit une prévalence de mon propre objet de recherche. Mais c'est vrai que c'est une caisse de résonance. Je le pense de plus en plus, où on peut tirer des fils qui parlent, au niveau de la colonisation, de toute la modernité basée sur la colonisation. Je passe le micro à Céline. Je te rejoins, tu es bien loin. Il y a quelque chose là, on s'est mis au fond là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là.
Alors, merci beaucoup pour ces réflexions. Effectivement, comme je l'ai dit avant, il y avait d'autres choses à dire et je m'excuse parce que pas pu réussir à finir ma présentation parce que, et ça rejoint aussi l'idée de communitas qui a été soulevée par Mathieu. La particularité du mouvement et ce que j'ai voulu faire en fait en interviewant les gens et surtout en ramenant mot pour mot ce qu'ils disaient, c'est de comprendre le mouvement à travers ce qu'ils disaient, à travers leur mémoire à eux. Ce que j'ai remarqué, première chose, et c'était une difficulté qui m'a permis de comprendre le mouvement par la suite, c'est que, contrairement au Béké, qui arrive à archiver, qui arrive à recréer et parler de leur mémoire, ce n'était pas le cas des autres Martiniquais. C'est-à-dire que Et ça, ça se voit dans le commentaire d'Eddie quand il dit « tu vois ce que je veux dire ». C'est-à-dire, on restait dans le flou. Et alors, ça, c'est un couteau à deux lames, dans la mesure où, d'un côté, ce flou-là permettait, notamment durant le mouvement, à faire grossir la participation, à ce que tout le monde se reconnaisse dans le « nous ». Tant qu'on ne le définit pas, eh ben, je me reconnais également, en tant que femme, quelle que soit la religion, quelles que soient mes origines, quelle que soit, entre guillemets, ma couleur de peau, puisqu'en Martinique aussi, on classifie les différentes couleurs de peau. Il y a négresse, il y a chabine, il y a etc. Donc, on se reconnaît dans ce « nous » qui reste flou. Et c'est ce qui permet de se rassembler. Voilà la raison pour laquelle il n'y avait pas une catégorie claire dans le mouvement. Il y avait de tout. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des chômeurs, il y avait des étudiants, il y avait de tout. Donc il était difficile, effectivement, de regrouper cette voie-là et de créer une histoire commune. Chacun s'y retrouvait. Et il se retrouvait dans le « nous » qui devait, à ce moment-là, rester flou. À partir du moment où on cherchait à définir c'est quoi le « nous », c'est quoi un Martiniquais, là se créaient des tensions. Le béquet, justement, c'est très facile, entre guillemets, à définir, puisque lui, il rejoint quelque part le discours républicain. Il a son archive. Par exemple, juste pour donner un cas de figure très simple, j'ai interviewé un béquet ici à Paris, et dans un endroit, j'ai jamais vu un appartement aussi luxueux de ma vie. D'ailleurs, c'est un hôtel particulier déjà. Donc quand je suis arrivée, bon, moi j'étais étudiante, je suis arrivée habillée comme une étudiante, quoi, simple. Quand je suis arrivée, il y a des personnes de la sécurité qui arrivent, me disent « vous voulez de quelque chose ?» Donc j'ai dit non, j'ai juste une interview avec quelqu'un. Et quand je suis arrivée, on est à Paris, hein. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être en Martinique. Et la réflexion que... Pourquoi ? Parce que tout était... Je me suis retrouvée dans un environnement colonial. Tout est... c'est après que j'ai découvert... Je ne suis pas une spécialiste des fusils. Il avait... Quand on rentre dans le corridor, il y avait une dizaine de fusils, ce qu'on appelle des flintstocks. C'est-à-dire des fusils qui ressemblent à ceux des pirates, là, qui arrondis sur le... Et c'était très bien aligné, c'était extrêmement luxueux. En face de moi, il y avait une grande baie vitrée avec la tour Eiffel qui scintillait en face de moi, elle était magnifique. Et lui, il a ses archives, il avait ce discours héroïque, et notamment, c'est à ce moment-là qu'il retrouvait ce discours héroïque, quand il me disait, par exemple, quand je me présente, je dis que je suis martiniquais, et vous, vous dites quoi ? Sachant très bien que moi, des fois, je peux dire je suis française, je suis martiniquaise, mais il refusait, il avait le luxe de refuser son identité en tant que français, sachant qu'elle n'est jamais remise en question. Donc, ce qui était vraiment intéressant dans le cas en Martinique, c'est que ce flou, quelque part, dans le discours, permettait une grande solidarité, mais elle n'a pas duré longtemps. D'où le cas de communitas, la notion de communitas dont je parle dans l'article, dans la mesure où ça reste fragile, où les identités sont remodelées, où on accepte, où on parle à tout un chacun, mais c'est une identité qui reste fragile et qui se redéfinit seulement à ce moment-là. Juste un autre cas de figure très simple par rapport aux photos, qui pour moi sont précieuses, dans la mesure où, quand j'ai fait ma recherche de terrain, j'ai réussi à récolter au moins 10 000 photos. Pour l'article que j'ai publié, le journal m'a demandé des 300 DPI en qualité. Le fait est que moi, j'ai réussi à voir les photos simplement, en allant sur Facebook et en regardant qui avait publié sur quoi. Et c'est là que j'ai pu faire mon snowball, c'est-à-dire j'ai pu contacter des personnes. Il y avait notamment un petit groupe de photographes qui allaient en ville et qui faisaient des photos. Quand j'ai eu un problème avec mon ordinateur, j'ai failli perdre mes données, et j'ai voulu retourner sur Facebook pour voir ces photos, elles disparaissaient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils retiraient les photos. Il y a ce travail d'effacement des traces que nous, créons, nous participons à cet effacement-là. Donc, quelque part, on retrouve encore deux problèmes. Le cas de la transmission des mémoires que nous effaçons entre guillemets, je le mets entre de gros guillemets, naturellement. Il a fallu que je recontacte les personnes pour qu'elles me donnent des qualités. Et certaines n'avaient pas toutes les photos. Donc elles effacent au fur et à mesure leur mémoire et elles ne voient pas l'intérêt. Alors que la mémoire des béquets, à travers notamment le cercle, l'arbre généalogique et à travers maintenant les traces qu'ils font dans le patrimoine, elle est claire et elle n'est pas disputée. Il y a, voilà, donc pour répondre à ça brièvement. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'en profite, Christine. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment, j'apprécie. C'était une autre expérience et j'apprends. Tu vois que j'apprends d'une expérience à l'autre. C'était les interventions étaient vraiment bien. J'ai parlé avec plusieurs personnes. Maud, encore une fois, son intervention impeccable. Donc, merci beaucoup pour. J'apprécie. Oui, voilà, bravo.
Maud, on va donner le micro à Maud qui nous remet un peu des médailles. Hein. Merci à tous. Et puis, on vous voit à la prochaine journée d'études de 2 octobre. 2 octobre sur capitalisme, esclavage et capitalisme. Une réactualisation de ce qui se dit, une approche d'économie politique, historique, philosophique, etc.